Vous écoutez
RMC.
Il est 7h, excellent réveil, merci d'avoir choisi RMC.
RMC, Apolline Matin.
Le journal de Clara Gabillet. Bonjour Clara.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. Le Paris Saint-Germain défendra bien son titre contre Arsenal en finale de la Ligue des Champions, venu à bout hier du Bayern sur un nul un partout. Nous serons en direct de Munich au lendemain d'une qualification haletante. Elle pourrait avoir été tuée par son ex-petite amie, un suspect de 23 ans interpellé dans l'Aisne après la mort d'une collégienne de 14 ans victime de coups à l'arme blanche. Et puis le porte-avions Charles de Gaulle est arrivé en mer Rouge près du détroit d'Ormuz. La France veut se montrer prête à le sécuriser.
Vous l'entendez, la joie des Parisiens dans le vestiaire après leur qualification en finale de la Ligue des Champions.
Ils défendront bien leur titre contre Arsenal, qualifié hier sur la pelouse de l'Allianz Arena à Munich. Match nul un partout contre le Bayern. Dembélé a ouvert le score dès la 3e minute. Égalisation dans les arrêts de jeu d'Harry Kane. Paris a donc conservé son avance du match aller, remporté 5-4. Jean-Louis Tour, c'est avec vous qu'on a vécu cette qualification. On vous retrouve ce matin en direct de Munich. Jean-Louis, autant le match aller était celui des artistes, le match retour celui des guerriers.
Oui, exactement. Le PSG a gagné la bataille de la solidarité. Hier soir, j'ai des images en tête de cohésion, d'union, d'une équipe qui était prête à souffrir hier soir, qui me reviennent en tête. Notamment certains joueurs comme Warren Zaïre-Emery, le Français qui remplaçait Hakimi au poste d'arrière droit et qui a été de toutes ces batailles avec des duels à l'épaule qui resteront dans les mémoires des supporters du PSG. Le capitaine Marquinhos également, capable d'haranguer ses partenaires en permanence. Pacho, l'autre défenseur central, l'équatorien, qui a été élu homme du match en plus. C'est dire si le PSG a clairement remporté cette bataille défensive. Et puis on ajoute dans ces cas-là le reste de l'équipe, les milieux de terrain comme Joao Neves, comme Fabián Ruiz, l'Espagnol qui revenait de blessure il y a quelques semaines et qui a répondu présent dans un match à haute intensité. Et puis les retours défensifs des attaquants, des joueurs qui sont entrés en cours de match également, qui se sont mis au diapason dans cette bataille. Et puis le PSG a gagné également la bataille mentale qui fait que cette équipe du Bayern, qui était un rouleau compresseur tout au long de la saison, a été quasiment dégoûtée par la force défensive du PSG, à l'image du Français Michael Olise, qui a été rayonnant au match aller et qui, à force de perdre des duels contre le Portugais Nuno Mendes, a presque baissé les bras, arrêtant de tenter dans la deuxième partie de la rencontre, où le Bayern, et c'est dire l'exploit du PSG hier soir, une équipe qui a mis plus de 150 buts cette saison, a semblé complètement baisser les armes face à ce PSG.
Jean-Louis Tour en direct de Munich pour RMC. Le PSG va donc jouer la 3e finale de Ligue des Champions de son histoire. La délivrance pour ses supporters parisiens rassemblés dans un bar hier soir.
On a attendu toute notre vie pour l'avoir une fois et ça fait deux fois en deux ans. On est plus excités que jamais, c'est un truc de dingue.
J'ai plus de voix quand jouer là, attends.
Mais on a gagné, c'est le plus important. On aime notre équipe. Donc on est contents, tous heureux. On va célébrer tous ensemble.
Paris. Confiant pour la finale, il reste quand même un match.
On est très confiants, c'est Arsenal, on n'a pas peur d'eux. Alors nul, on va se calmer.
Pas de gros, mais
on va aller à Budapest très confiant, on va revenir avec la LDC à Paris. On va fêter ça tous ensemble.
On peut le refaire. Pour la finale, vous en pensez quoi, Arsenal? C'est jouable ou c'est pas jouable? On va les avoir. Ils ne font pas peur, Arsenal? Ils ne font pas peur du tout. Ah, je pense qu'on peut gagner.
Et ne manquez pas Daniel Riolo, il sera avec nous dans un instant, juste après votre journal. Et il assume, pour lui, ce PSG est favori pour la finale.
La soirée qui a été quand même émaillée de débordements aux abords des Champs-Élysées, du Champ de Mars et du Parc des Princes. Des personnes qui ont utilisé des mortiers d'artifice et ont tenté notamment de descendre sur le périphérique avant d'être repoussées par la police. Au moins 6 interpellations.
Il est 7h04 sur RMC. Un jeune de 23 ans en garde à vue après la mort d'une collégienne dans l'Aisne.
Il pourrait s'agir de l'ex-petite amie de cet adolescent, selon le parquet, retrouvée morte hier matin sur le chemin du collège, victime de plusieurs coups portés à l'arme blanche. Une enquête est ouverte pour assassinat et en attendant de comprendre les circonstances de sa mort, c'est tout son quartier qui est sidéré. Reportage à faire en Tardenois dans l'Aisne de Pierre Bazin.
Oui, c'est sur un petit chemin forestier qu'elle empruntait pour se rendre au collège que l'adolescente a été découverte grièvement blessée avant de succomber à ses blessures. Pascal habite à quelques pas. Alerté par l'important dispositif de gendarmes, le père de famille n'imaginait pourtant pas qu'un tel drame s'était joué dans son quartier.
On entendait toutes les sirènes de gendarmes. On s'attendait pas du tout à un meurtre. La dame qui habite là, c'est elle qui m'a dit, non, il y a quelqu'un qui a été tué là, juste dans le chemin derrière. On habite à 100 mètres des parents, oui. Je connais surtout le frère de la fille parce qu'il vient jouer à la console avec mon fils. Donc, je vous dis, on habite juste là derrière, là. C'est impressionnant, quoi. Ça fait peur.
Scolarisée dans le même collège que la victime, Mélissa peine à dissimuler son stress. L'adolescente emprunte tous les jours ce petit chemin forestier où la victime a été poignardée à de nombreuses reprises. Tu la connaissais?
On faisait les trajets ensemble au collège. Quand j'ai appris la nouvelle, j'ai eu peur. Et je me suis dit, heureusement que ce matin-là, je n'étais pas partie par le même trajet. Ça provoque du stress un peu quand même.
Une cellule psychologique d'urgence a été mise en place dans le collège où l'accueil des élèves sera bien assuré ce matin.
Pierre Bazin, envoyé spécial d'RMC dans l'Aisne. Bientôt la fin d'une longue attente pour les passagers de la croisière coincée dans l'océan Atlantique à cause d'un foyer d'antivirus. Le navire attendu samedi aux îles Canaries. Les passagers restants devraient être évacués par avion lundi. Trois d'entre eux ont déjà été débarqués hier au Cap-Vert. Il y a également eu trois morts à bord. Le directeur de l'OMS estime que pour l'instant le risque pour le reste du monde est faible. Le lait contaminé n'est pas à l'origine de la mort d'un bébé à Angers en décembre, annonce le parquet. Le nourrisson en a bien consommé, mais il serait mort d'asphyxie, dit le parquet, alors qu'il dormait dans le même lit que sa mère.
Il est 7h03, le porte-avions Charles de Gaulle déployé tout près du détroit d'Ormuz.
Il a franchi le canal de Suez et est donc arrivé en mer Rouge pour envoyer le signal, dit l'Elysée, que nous sommes prêts et capables, Cassandre Brault, de sécuriser ce détroit.
On ne parle pas d'une mission offensive. Ici, l'Elysée évoque une mission neutre, dont l'objectif sera de permettre aux navires de franchir le détroit d'Ormuz en toute sécurité, les protéger par de la surveillance, de la défense aérienne, anti-navire, mobiliser également une capacité anti-mine pour les détecter et les détruire. En plus du porte-avions Charles de Gaulle, d'importants moyens vont être mobilisés, selon Jean-Claude Allard, chercheur associé à l'IRIS.
Des bateaux équipés de radars, de moyens de détection de drones ou de missiles, et de moyens pour les contrecarrer. Et puis, des moyens d'avions, de drones, d'hélicoptères.
La France le fait dans le cadre de la coalition maritime réunie le 17 avril dernier à Paris, qui regroupe une cinquantaine de pays, dont le Royaume-Uni, l'Allemagne, l'Italie, la Chine, l'Inde. Mais l'Élysée le précise, cette mission de sécurisation ne pourra débuter qu'à une condition, lorsque le détroit pourra être pratiqué en sécurité.
Le détroit d'Ormuz a réussi à franchir un porte-conteneur de l'armateur français CMA-CGM, localisé hors du Golfe après avoir disparu des radars pendant 24 heures. Donald Trump lui affiche son optimisme et juge très possible un accord de paix avec l'Iran.
Et ne manquez pas, à 8h30 dans le face-à-face, la ministre déléguée aux armées, Alice Ruffo. Pourquoi le Charles de Gaulle va sur place? Avec quelle intention? Est-ce qu'on peut vraiment rester dans une logique défensive? Toutes les réponses donc à 8h30 dans le face-à-face.
Et on vous parlait du PSG en début de journal. Un autre club français va tenter de se hisser en finale de Coupe d'Europe. Strasbourg, Rayo Vallecano en demi-finale retour de Ligue Conférence. Ce soir, les Espagnols l'avaient emporté 1-0 à l'aller. Match à vivre donc ce soir à 21h. Ce sera à vivre sur RMC.
Et justement, c'était hier soir. Écoutez sur RMC.
C'est fini. Paris est en finale de la Ligue des Champions pour la deuxième année consécutive. Le PSG va défendre son titre. Le PSG peut encore rêver.
Ils l'ont fait. Le PSG donc de nouveau en finale de la Ligue des Champions. Les Parisiens ont résisté au Bayern de Munich hier soir. Match nul un partout. Qui envoie donc les hommes de Luis Enrique à Budapest contre Arsenal. Ce sera le 30 mai prochain. Et ça peut passer. Daniel Riolo. Bonjour Daniel.
Bonjour.
Peu dormi bien sûr. Journaliste RMC Sport. La voix de l'After Sport. Mais il a encore de la voix ce matin. Ce PSG, il est favori pour la finale. C'est ça votre parti?
Oui.
Vous nous le dites dans un instant. Et vous aussi qui vous appelez au 32-16. 7h09. À tout de suite.
RMC jusqu'à 9h. Apolline Matin.
Apolline de Malherbe.
Sur le toit de la voiture, j'ai plus de voix, mais on est contents. Maintenant, on va chercher la deuxième.
Paris est en feu, on va gagner la Ligue des Champions, la famille. C'est incroyable ce qui se passe.
Paris en finale de la Ligue des Champions pour la deuxième année consécutive. Les Parisiens qui affronteront avec les Anglais d'Arsenal le 30 mai prochain à Budapest en Hongrie. Bonjour Daniel.
Bonjour.
Daniel Riolo, journaliste RMC Sport, évidemment, voix de l'After. On vous entend tous les soirs dans l'After Foot. Paris a fait le job hier, clairement. Vous imaginez à ce point-là?
On est dans un âge d'or pour le PSG.
Clairement, vous me demandez si j'imaginais, ça faisait un petit moment que je voyais que cette équipe était meilleure que l'année dernière. Elle a des certitudes, elle a une confiance qui l'habite maintenant depuis des mois. Elle a préparé sa saison de façon totalement originale, parce qu'on n'avait jamais vu ça, une saison où on abandonne en gros les 6 premiers mois, parce que on a beaucoup joué l'année d'avant, parce qu'il y avait eu cette compétition du Mondial des clubs, les gens avaient un peu peur, on se disait mais comment vont-ils pouvoir enchaîner, il y a trop de matchs, mais la préparation a été tellement millimétrée, tellement, j'ai presque envie de dire scientifiquement préparée cette saison, que ça aboutit à un PSG qui est arrivé à une sorte de pic de forme en février. Et on a retrouvé après février une équipe encore plus performante que celle de l'année dernière. Il suffit de regarder son parcours. Dans ce parcours-là, on a beaucoup moins souffert que l'année dernière. Il n'y a pas eu ces matchs contre Aston Villa où jusqu'à la dernière minute, c'était la peur qui gagnait chaque supporter.
On a l'impression que ça se fait avec aisance. Voilà. C'est-à-dire que ça ne se fait pas dans la douleur.
C'est pour
douleur.
Ça que je vous dis qu'ils sont même plus forts. Hier, on craignait le feu à Munich parce que cette équipe du Bayern, après ce qu'elle avait montré la semaine dernière au Parc des Princes, on s'était dit légitimement, match retour, ils sont à domicile, poussés par leurs supporters, ça va être terrible. Or, dès la troisième minute, quatrième minute, Dembélé a climatisé l'Allianz Arena. Et dans la foulée, on peut pas dire que le PSG ait beaucoup, beaucoup souffert. Ils ont pris le but, bon, on était déjà à la 94e quand Kane a marqué. Il restait 30 secondes, une minute à peine. Oui, allez, peut-être un petit tremblement nous a gagné. Mais franchement, ça a été parfaitement maîtrisé.
Plus fort encore que l'an dernier. Ouais. Ça veut dire que pour vous, ils
sont favoris pour la finale, bien sûr. Oh, ils vont jouer une équipe qui est un peu particulière, Arsenal, qui défend énormément et qui sait très bien défendre. Ils ont encaissé que 6 buts cette année en Ligue des Champions. Mais on leur avait dit, le Bayern, c'est l'équipe qui en a marqué le plus. C'est l'équipe qui est la plus forte. Et Paris n'a pas vraiment souffert contre le Bayern. Moi, très honnêtement, j'ai du mal à envisager autre chose qu'un deuxième sacre de suite.
Arsenal, on en parle comme d'un mur.
Oui, mais à chaque fois qu'on a parlé d'une équipe forte face au PSG, on peut pas dire que le résultat était défavorable. Non, à chaque fois ils s'en sortent, à chaque fois ils trouvent la solution.
Vous êtes devenu fan de l'entraîneur finalement
depuis un an maintenant, oui. Oui. En gros, depuis qu'il fait un peu ce que je dis.
Ah voilà, donc c'est ça. En fait, ça dire. Marche si.
Pour tout dire. Si vraiment vous voulez savoir, mais je ne m'attendais pas à cette question.
Daniel, je voudrais qu'on accueille aussi Jean-Claude qui est avec nous et qui a beaucoup vibré hier soir. Bonjour Jean-Claude.
Bonjour.
Jean-Claude, fan de la première heure, aujourd'hui à Montargis dans l'Essonne. C'est simple, vous nous avez écrit un message sur WhatsApp, c'est heureux, 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 heureux.
Heureux, oui, très, 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 très heureux. Et surtout, mon cœur a tenu.
Alors parce que j'ai vu. Pourquoi vous dites ça, Jean-Claude, vous avez quel âge?
75 ans, 76.
Alors, il a tenu, et la voix a tenu, mais on sent que vous en avez donné de la voix hier.
Ah oui, hier, j'en ai pleuré. J'étais heureux, un supporter du PSG, du plus répandu. Heureux, mais heureux. Vraiment, on l'a fait.
Avec ce sentiment aussi d'avoir basculé dans une nouvelle ère, en fait, pour le PSG.
Ah oui, mais c'est... Vous voyez, même là, je vous écoute, mais je pleure, là, vous voyez, je suis en train de pleurer, c'est ça.
Non, mais c'est extraordinaire.
C'est magnifique.
Que ça donne cette émotion. Mathieu a envie de pleurer avec vous, je pense.
Ah ouais, moi je partage Jean-Claude. Et puis Jean-Claude, 76 ans, il en a vécu des moments beaucoup plus difficiles.
C'est ce que je disais, c'est que
avec le Paris Saint-Germain.
Cette nouvelle ère. Non, mais vos larmes, elles sont Jean-Claude, elles sont à la mesure des années aussi où vous vous êtes dit mais c'est pas possible quoi. C'est trop dur.
Bah oui, c'est vrai que c'est trop beau. Je peux
mourir maintenant. Attendez un peu, Jean. Parce Daniel, que justement, vous avez envie de vivre la suite. Daniel.
Je peux casser un peu l'ambiance. Il y a un petit débat quand même. Moi, je vois les messages sur le WhatsApp RMC sur l'arbitrage hier soir. Est-ce que le PSG a été favorisé?
En tout cas, en Allemagne, ce matin, et ça a commencé dès hier soir, grosse polémique. J'ai vu les propos d'Oliver Kahn, capitaine emblématique, dirigeant aujourd'hui du Bayern. Oui, il y a deux décisions qui sont très disputables.
Le
pénalty, deuxième carton jaune pour Nuno Mendes. On a parlé de ça hier soir. On s'est également souvenu que pendant des années, les années noires du PSG, celles où chaque année ça se terminait par une forme d'humiliation, Paris a mangé son pain noir avec les décisions arbitrales. Effectivement, depuis deux ans, on a le sentiment qu'il n'y a pas un fait de jeu contraire.
C'est ça d'être passé dans les favoris
fois,
aussi.
À chaque fois qu'une décision est prise, elle va dans le sens du PSG.
Mais ça veut dire quoi, Daniel ? Ça veut dire que fondamentalement,
dans
vous
le foot,
dites,
eu
ouais,
le...
il l'aurait, il l'aurait...
Dans
on
le
a
foot,
été favorisé.
Il y a toujours eu les périodes des dominants qui sont, comment dire, c'est un peu délicat à comprendre, mais comme s'il y avait une sorte de soumission psychologique de l'univers du football et donc des arbitres.
Parce qu'il y a une sorte
face
de fascination.
À l'équipe qui gagne et l'équipe qui est sympa, elle dégage de la sympathie cette équipe alors que elle était détestée pendant des années. Le PSG était détesté parce que le Qatar, parce que l'argent, vous croyez que vous allez gagner comme ça, simplement en étalant les millions. Et pendant des années, le PSG terminait les Ligues des Champions dépité. Il y avait tout le temps une humiliation, une décision d'arbitre contraire. On se souvient évidemment du Barça-PSG de 2017. C'était terrible. Là, c'est comme si on leur avait dit... alors, je vous avoue que tout ça, c'est irrationnel quand je vous parle comme ça. On
mais
vous
mais
avait
si,
dit, vous allez me dire,
non.
Qui a dit ça?
Vous avez commencé en disant qu'ils étaient quasi scientifiques désormais dans leur préparation.
Vous avez mangé votre pain noir, hein. Vous vous souvenez, l'arbitre, là-bas, voilà. Comment il vous a... là, vous vous souvenez, là, hein. Bon, allez, maintenant, ça va un petit peu se calmer. Maintenant, ça va aller. Maintenant, ça va aller. Eh oui, oui.
Jean-Claude,
effectivement, ça va
Jean-Claude,
tout droit maintenant.
La victoire est quand même bien méritée.
Ah oui, bah bien sûr, elle est vraiment méritée. Moi, dès que j'ai vu ce but à la 15e minute, je dis ça y est, c'est bon.
Ouais, c'est vrai que ça, c'était quand même extraordinaire. On a eu à peine le temps de
au match aller aussi, ma pénalty. Oui, ça peut ne pas siffler.
On peut toujours discuter des décisions.
Daniel, un mot sur Strasbourg, qui joue ce soir sa demi-finale de la Ligue Europa Conférence. Deux clubs en finale des Coupes d'Europe, quand même. C'est pas arrivé depuis 2004.
Exactement.
Ça veut dire que le foot français va bien.
Attention, il y a quand même une semaine, le patron de la DNCG disait à quel point les clubs français étaient financièrement
aux abois.
Le gendarme
financier du foot, hein.
Le gendarme financier du foot, effectivement. Non, les finances des clubs français ne vont pas bien du tout. Le PSG brille, mais il est dans un monde à part. Et Strasbourg est soutenu par un gros fonds d'investissement américain. Et Strasbourg a fait le choix cette année, c'est rare que les équipes avouent ce genre de choix, on mise tout sur cette petite Coupe d'Europe. Et souhaitons que ce choix quand même ne leur revienne pas pleine poire ce soir, parce qu'ils ont quand même un petit peu balancé le championnat. La Coupe de France, ils étaient en demi-finale, ils n'ont pas été à la hauteur de la demi-finale quand ils l'ont joué. Ils ont dit on va tout jouer sur cette compétition. Ils ne sont qu'à une marche d'être en finale et comme vous l'avez dit Apolline, depuis 2004, puisqu'on est dans des moments d'histoire, puisqu'on dit que le PSG était en train d'écrire l'histoire, pour le football français, effectivement, depuis 2004, on n'a jamais eu deux clubs en finale.
Et il y a les filles de Lyon, il y a les filles de Lyon en finale de la Ligue des Champions féminines.
C'est beaucoup plus habituel pour les filles.
Oui, oui.
Elles ont quand même
trois clubs français
quand même une tonne de coupe.
Et on est dans un grand moment et il va y avoir la Coupe du Monde le 11 juin aux États-Unis.
Où les Bleus sont dans les favoris, il y a que des bons joueurs.
Ouais.
Ça peut être un printemps-été, collection printemps-été formidable.
Collection printemps-été formidable, il s'adapte. Merci beaucoup.
Merci,
Daniel Riello, journaliste et éditorialiste RMC, qu'on retrouve évidemment tous les soirs dans l'After. Merci à Jean-Claude, on a partagé, on a vibré avec vous pour cette émotion. La demi-finale retour de Strasbourg ce soir, 21h sur RMC. La finale du PSG, ce sera le 30 mai prochain contre Arsenal, évidemment aussi sur notre antenne. Il est 7h20, il est rentré dans ce studio. Arthur Chevalier, bonjour Arthur.
Bonjour Apolline.
Arthur, un cargo français a été pris pour cible dans le détroit d'Ormuz. Ça vous a rappelé une autre histoire de bateau?
Eh oui, un navire visé par l'Allemagne en 1915 et qui avait complètement changé le cours de la Première Guerre mondiale.
Vous nous le racontez dans un instant. Notez également qu'à 8h30, mon invité, ce sera la ministre déléguée aux armées, Alice Ruffo, qui nous parlera du Charles de Gaulle, qui est en train d'arriver en direction du détroit d'Ormuz. Il est 7h20, à tout de suite sur RMC.
RMC, Apolline Matin.
17h22 et comme chaque jour on va remonter le temps avec Arthur Chevalier. Bonjour Arthur.
Bonjour Apolline.
La France n'a en aucun cas été visée. Voilà ce qu'a déclaré Emmanuel Macron hier. C'est ce qu'a dit sa porte-parole du gouvernement. Ses propos, il faisait suite à une attaque dans le détroit d'Ormuz qui était survenue donc avant-hier. Un cargo CMA-CGM, propriétaire de RMC, a été touché par des tirs. Pourquoi Emmanuel Macron tient-on à préciser que ce n'est pas la France qui est visée?
Tout simplement pour calmer le jeu, Apolline, hein, parce que CMA-CGM, c'est une entreprise française, que plusieurs membres d'équipage ont été blessés, donc on aurait pu considérer ça comme une agression, ce qui aurait éventuellement pu constituer un acte de guerre, sauf que le cargo en question était sous pavillon maltais, que l'équipage était philippin, donc pas de panique, la France n'est pas attaquée, le président a tenu à le préciser. pour éviter que la machine s'emballe, si vous voulez.
Parce qu'un bateau civil, ça peut provoquer une entrée en guerre.
Mais bien sûr, et d'ailleurs ça s'est déjà produit, c'est un des événements les plus traumatisants du XXe siècle, une histoire glaçante. Hein. Nous sommes en 1915, au début de la Première Guerre mondiale. D'un côté, il y a la France et son allié l'Angleterre, de l'autre, l'Allemagne. Cette guerre, évidemment, elle se passe sur la terre, mais aussi sur les mers. Et justement, les Français et les Anglais organisent un blocus maritime contre l'Allemagne.
Et l'Allemagne ne se laisse pas faire.
Non, elle riposte et elle décide de torpiller les navires commerciaux dans les eaux territoriales britanniques. Sauf que tout ça va dégénérer. Le 8 mai 1915, un sous-marin allemand torpille un des plus beaux paquebots de l'époque. Ce paquebot, il s'appelait le Lusitania. Il arrivait de New York. Sa destination, c'était Liverpool, en Angleterre. Le Lusitania est touché par une torpille au large de l'Irlande. Il va couler en moins de 20 minutes. Sur 1959 passagers, seuls 761 s'en sortiront.
L'indignation est mondiale.
Oui, et ça s'explique puisque le Lusitania était sous pavillon américain. Et à l'époque, les États-Unis n'avaient rien à voir avec cette guerre. C'était donc une attaque contre des civils, mais aussi contre un pays neutre. Et c'est pas fini, puisque parmi les victimes, il y avait 128 Américains, justement. C'est ça qui va enflammer l'opinion et la classe politique américaine.
Et ça va complètement changer le cours de la guerre.
Et oui, puisque sous la pression de l'opinion, aussi avec d'autres raisons, les États-Unis entreront finalement en guerre du côté de la France et de l'Angleterre, ce qui va naturellement nous donner un avantage décisif contre l'Allemagne, qui va d'ailleurs finir par perdre cette guerre. Vous voyez, Apolline, c'est aussi pour ça que la situation dans le détroit d'Ormuz est très dangereuse. Il y a beaucoup de bateaux civils. Ce qui s'est passé avec le cargo CMA-CGM pourrait se reproduire et entraîner une amplification du conflit.
Merci Arthur. Arthur Chevalier, l'historien d'Apolline Matin. Pour réécouter vos chroniques, Arthur, c'est à tout moment sur l'application RMC. Il est 7h25, vous le savez, Arnaud de Manche a pris quelques jours de vacances. On le retrouvera tout à l'heure, son meilleur à 8h20. Mais en attendant, je voudrais qu'on parte au 32-16. Raoul, qui nous appelle de Mantes-la-Jolie. Bonjour Raoul.
Oui, bonjour Apolline.
Raoul, vous vouliez vibrer et vous avez vibré hier soir. Vous avez vibré, votre fils était à Munich, c'est ça?
Oui, racontez-nous. C'est ça, oui. Oui, il était à Munich et on a communiqué via WhatsApp. Ouais. Et il m'a dit que c'était le feu là-bas, c'était gigantesque.
Vous étiez où?
Chez moi, dans mon... ouais, devant ma télé, ouais, tout à fait. Ouais.
Avec des copains?
Non, avec mon chien et mon épouse.
Ah, c'est bien. Moi, c'est bien. Moi, je pense que dans ces moments-là, il faut se concentrer. C'est ça.
Ouais, c'est ça. C'était gigantesque et on a tous pleuré. Franchement, on s'est appelé avec mon fils et on a pleuré.
Oh.
Ah si, je vous jure.
C'est génial.
On a tellement souffert pendant des années que là, deux fois de suite, vous pouvez même pas imaginer, Apolline.
Bah si, j'imagine et j'imagine d'autant plus que on a eu Jean-Claude à l'instant qui vibre, qui disait maintenant je peux mourir. Je lui disais maintenant attendez encore un peu. Je trouve ça c'est extraordinaire. Il y a plus que ça qui nous fait vibrer à ce point. Et honnêtement c'est magnifique d'entendre et de partager avec vous ça ce matin. Raoul, vous serez avec votre fils pour la regarder la finale?
Non, lui je pense qu'il ira à Budapest parce qu'il fait partie d'un groupe.
Ok.
Et lui il ira, c'est sûr. Moi, non, je vais rester à la maison, tranquillement.
Avec votre épouse et votre chien.
Exactement, ouais. Et puis on va soulever une deuxième fois cette coupe.
Ouais, c'est ce que disait d'ailleurs Daniel, vraiment à l'instant, la solidité et l'aisance. C'est ça ce que je trouve assez inouï quand même, cette aisance. Raoul, il a aussi là.
Raoul, et on sait qu'ils en ont bavé. Hein. Ouais. On sait qu'ils en ont bavé au parc, hein, de regarder des sauvetages face à Sochaux avant de venir s'imposer deux fois de suite en Ligue des Champions.
Merci Raoul, on pense à vous et à votre fils et on partage tous ensemble. Merci d'avoir appelé le 32-16. Il est 7h27, on vous offre vos vacances. Vous le savez, depuis le début de la semaine, RMC vous fait gagner vos vacances à la mer ou à la montagne. Vous remportez un séjour d'une valeur de 2 000 euros dans les clubs et hôtels Bellembrun, le spécialiste des clubs de vacances pour les familles en France. Vous pourrez choisir parmi 45 destinations dans les plus beaux endroits de France où Bellembrun s'occupe des enfants, des activités, des repas, c'est le tout compris premium. Alors pour remporter ces vacances, vous envoyez tout de suite vacances au 7-32-16. Vacances au 7-32-16. Le gagnant sera avec moi en direct avant 9h. Bonne chance à tous. 7h27. 7h30 sur RMC.
RMC, Apolline Matin.
Le journal de Victor Pourchet. Bonjour Victor.
Bonjour Apolline et bonjour à tous. Braquage, agression, puis parfois fermeture. Les petits commerces en appellent au gouvernement qui présente ce matin un plan de sécurisation de ses boutiques. Le litre d'essence a un niveau record, mais les marges des distributeurs sont dans les clous. Ce sont les dernières conclusions des services de l'État. Et le Paris Saint-Germain poursuit sa deuxième belle étoile. Deuxième qualification consécutive en finale de la Ligue des Champions en éliminant le Bayern Munich.
Protéger pour ne pas les voir fermer, c'est l'objectif du plan sur les petits commerces qui doit être dévoilé par le gouvernement ce matin.
Comment vendre son pain quand on doit barricader sa boulangerie comme une banque? Comment être à la fois à la caisse si l'on doit aussi jouer les vigiles? Les commerçants attendent les réponses de leur ministre Serge Papin en déplacement à Nancy. Réponse pour endiguer un phénomène qu'on peine à quantifier, mais dont témoignent les victimes que vous avez rencontrées, Martin Lange.
Christophine tient une épicerie dans le centre-ville de La Roche-sur-Yon depuis 20 ans. Au mois de février, elle a été victime d'une violente agression.
À peine 100 mètres en sortant de mon magasin, ils m'ont arraché mon sac à main avec ma caisse et puis tous mes objets personnels.
C'est déjà la troisième fois que son commerce est visé.
Il y a 2 ans, il y a eu aussi un cambriolage ici. Il y a 5 ans, 3 individus cagoulés. Ils m'ont plaqué donc contre le mur avec un couteau.
Aujourd'hui, Christophine ne sort plus de sa boutique seule. Elle aimerait être plus soutenue par les pouvoirs publics.
Vidéo de surveillance et puis patrouille. Sécuriser les petits commerces, peut-être prendre un peu plus de mesures pour nous.
Des caméras, Jocelyne en a plusieurs devant son tabac de Saint-Laurent-de-Mur, mais ça n'a pas empêché une voiture bélier d'attaquer sa devanture le mois dernier.
Ça a embarqué le volet, ça a reculé de 3 mètres dans le bureau de tabac. Ils ont chargé la voiture qui était là et ils sont repartis tranquilles. Entre le volet roulant et les menuiseries changées, j'en suis déjà à 27 000 euros.
Depuis le casse, la mairie a fait installer des plots devant sa vitrine, une première étape selon la buraliste.
Si j'avais eu la protection de la voiture bélier à l'extérieur, ça ne serait pas arrivé. Hein. Plus il y aura et plus ça va dissuader. Hein.
La commerçante qui se dit d'ailleurs satisfaite de voir régulièrement des patrouilles de forces de l'ordre.
Autre dossier chaud pour le gouvernement, ces prix records du litre d'essence enregistré hier, 2,03 € en moyenne le samplon 95, 2,12 € le samplon 98, au plus haut hein, depuis le début de la guerre au Moyen-Orient. Le gazole, lui, est à 2,23 € le litre. Et après avoir mis la pression sur les distributeurs, Victor Joannin, l'État les a en quelque sorte blanchis hier. Il l'assure, non, il n'y a pas eu d'abus sur leur marge.
Oui, les distributeurs ont joué le jeu, que ce soit les majors comme Total, les enseignes de la grande distribution ou les indépendants, représentés notamment par Emmanuel Ampot, qui rappelle que la marge brute est un indicateur qui contient non seulement le profit que le pompiste se met dans la poche, mais également toute une série de coûts.
Les coûts de transport, d'approvisionnement des dépôts primaires, ça peut être par train, ça peut être par pipe, les coûts d'utilisation de ces dépôts primaires, l'approvisionnement ensuite par camion des stations-service, et enfin un certain nombre de frais annexes, qui peuvent être par exemple les fameux certificats d'économie d'énergie qui viennent impacter de manière assez forte le coût de distribution.
Le plafonnement des prix opéré par Total a pu avoir un double effet positif sur les marges des stations du groupe qui représentent un quart du carburant écoulé en France et sur ses concurrents immédiats en les forçant à ne pas trop gonfler la note pour rester compétitif.
Et ces chiffres seront désormais mis à jour chaque semaine tant que la guerre durera, justement. Espoir d'accord entre les États-Unis et l'Iran. Il est très possible qu'il soit signé, disait Donald Trump hier, tout en menaçant, si ce n'était pas le cas, de bombarder toujours plus durement. Téhéran répond être en train d'examiner la proposition américaine. Il est 7h33 sur RMC. Les infantiles contaminés ne sont pas à l'origine de la mort d'un bébé à Angers. C'était en décembre dernier, en pleine campagne de rappel de ces pots dans lesquels une toxine avait été détectée. Piste écartée hier, Solène Leroux, les analyses orientent l'affaire vers une toute autre thèse.
C'est le scénario d'un terrible accident qui se dessine désormais pour la justice, celui d'une asphyxie involontaire. Cette nuit-là, la jeune mère s'endort dans le même lit que son bébé et le retrouve inanimé au matin. Son décès est prononcé quelques heures plus tard. En janvier, la mère contacte les enquêteurs, évoque une boîte de lait rappelée qu'elle a donnée à son enfant. En mars, de la toxine incriminée est bien détectée dans les selles du nourrisson. Mais aujourd'hui, cette piste est écartée, même si une dernière analyse doit arriver dans les prochains jours, nous précise le parquet. La maman a été entendue fin avril en garde à vue. Elle est ressortie libre, sans poursuite judiciaire à ce stade. Contactée par RMC, ni la mère ni son avocat n'ont souhaité s'exprimer.
Solène Leroux pour RMC. Du monde sur la route aujourd'hui, début du week-end prolongé du 8 mai oblige. C'est rouge partout dans le sens des départs, orange dans le sens des retours. Le foot et le Paris Saint-Germain qualifiés pour la finale de la Ligue des Champions, la deuxième consécutive. Le 1 partout d'hier soir à Munich a suffi après la victoire 5 buts à 4 des Parisiens au match aller. Arthur Perrault, c'est un nouvel exploit historique du PSG.
Oui, depuis le début de saison, l'entraîneur parisien Luis Enrique était le premier à y croire.
Vous vous rappelez ce que je vous dis après la phase de groupe? Vous vous rappelez ou pas? Sur quoi? Sur que je n'avais aucune équipe meilleure que nous. Je l'ai dit, quand tout le monde critiquait, tout le monde a dit que l'équipe, les Paris Saint-Germain, rien. Mais je ne me ratais pas.
Le président du PSG, Nasser El Khelaïfi, a lui du mal à réaliser.
On a créé la grande histoire ici, c'est le même stade. On a créé l'histoire l'année dernière, et c'est magnifique. Back to back, au final.
Le club parisien pourra défendre son titre obtenu en 2025, l'attaquant Désiré Doué.
On y va pour gagner, pas pour défendre quoi que ce soit, on y va pour gagner.
L'année dernière, on est allé sans vraiment avoir gagné avant ça. On sera surmotivé.
Le rendez-vous est pris pour le 30 mai, et la grande finale prévue à Budapest contre le club anglais Arsenal.
Et ce sera à suivre évidemment sur RMC comme tous les grands moments de sport, à l'image du Tour de France avec Paul Sexas. Hier, pour sa première interview depuis l'annonce de sa participation à la Grande Boucle, il était chez nos camarades du Super Moscato Show. La pépite française se voit bien dans la roue de l'ogre Pogacar.
Aujourd'hui, les faits parlent pour lui. Hein. Il a gagné quasiment toutes les courses en début de saison. Il a gagné 4 fois le Tour. Pour l'instant, j'imagine même pas une comparaison. Mais forcément, je vais me battre pour être le meilleur possible et essayer de le titiller, même si c'est qu'en début de Tour. Rien n'est impossible, mais bon, il faut quand même être mesuré dans les ambitions.
Et on poursuit la grosse semaine du Super Moscato Show. Ne manquez pas cet après-midi des 15h. Invité exceptionnel, tout simplement, le recordman du monde du saut à la perche, Armand Duplantis.
C'était le journal de Victor Pourchet. Il est 7h36 sur RMC. Des prix qui augmentent, des vols annulés. Est-ce qu'il faut s'inquiéter pour les vacances d'été et pour l'économie française? Bonjour Thomas Juin.
Bonjour.
Vous représentez la centaine d'aéroports en France. Malgré la flambée du kérosène, vous allez tenter d'être rassurant, je crois, ce matin, parce qu'effectivement, vous voulez pouvoir vous projeter et qu'on puisse se projeter avec vous. On vous écoute dans un instant et puis n'hésitez pas à vous nous appeler au 3216 si vous espériez partir cet été. Est-ce que vous redoutez les prix des vols? Est-ce que vous redoutez aussi que des vols soient annulés? N'hésitez pas à nous appeler. Il est 7h37.
RMC, jusqu'à 9h. Apolline Matin.
Apolline de Malherbe.
7h41 et vous êtes bien sur RMC et RMC Story. Y aura-t-il des avions cet été? Le prix du kérosène flambe. Certaines compagnies annulent leurs vols, d'autres augmentent les prix des billets. Est-ce qu'il faut s'inquiéter pour nos vacances d'été? Bonjour Thomas Juin.
Bon.
Vous présidez l'Union des aéroports français, une centaine d'aéroports au total, et vous étiez hier à cette réunion à Bercy avec le ministre de l'économie, celui des transports, celui des PME. Est-ce que vous en êtes sorti rassuré?
Bonjour Apolline de Malherbe, oui, nous sommes rassurés. Je peux vous le dire maintenant, il n'y aura pas de pénurie pour la période estivale. Donc les énergéticiens étaient présents également et ont été clairs. Il y aura suffisamment de stocks de carburant pour passer l'été.
Il n'y aura pas de pénurie avant la fin de l'été parce que le ministre de l'économie était un tout petit peu moins, je dirais, il regardait un peu moins loin que vous. Il disait aucune crainte pour mai et juin, peu de risques pour la suite.
Écoutez, nous avons compris que nous pourrions passer l'été, donc on espère en effet que ce soit sans encombre. Ce qu'on a compris également, c'est que les approvisionnements étaient plus diversifiés depuis le blocage du détroit d'Ormuz. Il faut savoir que les compagnies pétrolières s'approvisionnent de plus en plus vers d'autres, en provenant d'autres pays, notamment les États-Unis, l'Afrique de l'Ouest. Donc, en effet, le gouvernement s'est voulu rassurant. Nous espérons que ce ne soit pas un été, en effet, qui soit avec des annonces qui soient plus pessimistes demain. Donc, non, je peux vous dire aujourd'hui que tout le secteur aujourd'hui se projette pour un été qui soit sans pénurie.
Alors, la question de la pénurie, vous nous le dites, elle est écartée jusqu'à la fin de l'été. Il y a une autre question qui est évidemment la question des prix. Pas de pénurie, mais un kérosène beaucoup plus cher. Est-ce que ça a un impact, ça? Et est-ce que ça pourrait faire changer d'organisation, de projet, les différentes compagnies qui, pour certaines, décident de renoncer à certaines destinations qui seraient un peu moins rentables? Il y a déjà 2% des vols environ qui ont été supprimés.
Alors, les compagnies font tout pour tenir et maintenir leur programme. Mais il faut savoir que le kérosène a augmenté considérablement. Il représente non plus un quart du coût d'une ligne, mais quasiment 40 à 45%. Donc, les compagnies ont deux solutions. Soit augmenter le prix de billets, ce qu'elles font, notamment sur le long courrier, un peu plus que sur le court moyen courrier, puisque le long courrier pèse plus compte tenu de la durée de vol. Et quand les vols ne sont pas assez remplis, en effet, elles peuvent annuler certains
elles
vols.
Elles peuvent le faire combien de temps à l'avance?
Alors, elles ont la possibilité d'annuler les vols. Alors, pour que les passagers puissent en effet prendre leur disposition, elles le font en général plusieurs mois à l'avance, mais ça peut être, il n'y a pas de règle en la matière.
Il n'y a pas de règle en la matière, donc on peut avoir pris un billet, avoir tout prévu, et qu'à la dernière minute, parce que le vol n'est pas suffisamment plein et rentable pour une compagnie, qu'elle décide de ne pas affréter l'avion.
Oui, mais en pratique ça ne se passe pas comme ça, puisque les compagnies organisent leur programme des mois à l'avance, donc quand il y a des annulations, c'est anticipé, préparé. Mais ce que je dis, c'est qu'aujourd'hui c'est très contenu. Nous ne sommes pas dans une période d'annulation massive, et ce que je peux vous dire, c'est qu'aujourd'hui, nous surveillons ça comme le lait sur le feu au niveau des aéroports, il n'y a pas véritablement de bouleversement du programme. Il faut savoir que les compagnies font aujourd'hui pratiquement sur la période estivale 40% de leur chiffre d'affaires. Donc elles feront.
Donc elles n'y ont pas intérêt elles-mêmes, non, c'est ce que vous nous dites, Mathieu.
Oui, on a dit que c'était beaucoup les low cost, mais pas seulement. Lufthansa aussi. Adrie nous écrit ce matin concernant les annulations de vol. Je devais partir demain pour Copenhague afin d'y courir le marathon dimanche. La compagnie Lufthansa a annulé le vol aller-retour. J'ai dû annuler mon voyage et mon marathon. En ayant terminé la prépa, j'avais un gros objectif. J'ai fait beaucoup de sacrifices et je me retrouve à annuler tout ça en voiture et en train. C'était plus de 20 heures et 5 fois le prix avec d'autres compagnies.
Alors, sur Lufthansa, on a quand même des situations particulières. Il y a une situation économique particulière de Lufthansa, mais on ne note pas ça en France. Et ce que je peux vous dire, c'est qu'aujourd'hui, ce qui est ressorti hier, c'est qu'il n'y aura pas d'annulation massive pour cet été. Donc, je veux rassurer, en effet, les passagers. Et d'ailleurs, les réservations sont bonnes, s'annoncent bonnes pour de juin à août. Donc, nous ne sommes pas dans une situation systémique en termes d'annulation de vol.
La question de Volotea, qui est donc cette compagnie low-cost espagnole, qui a exigé un complément alors que le prix des billets avait déjà été fixé, c'est-à-dire rajouté à la dernière minute 14 euros par passager pour compenser l'augmentation des prix du kérosène. C'est légal ou c'est pas légal? On n'a pas compris si on avait une sorte de garantie, une fois qu'on avait acheté le billet, que le prix ne soit pas modifié plus tard.
Oui, alors ça, j'ai pas la réponse. C'est-à-dire que le gouvernement a demandé en effet à l'administration de vérifier la légalité. Et en effet, c'est la seule compagnie aujourd'hui qui a annoncé cela. Je rappelle que toutes les compagnies actuellement se sont engagées augmenter leur vol, leur prix, une fois que la réservation est effectuée.
Est-ce que vous redoutez éventuellement que d'autres compagnies puissent être tentées de faire comme cette compagnie espagnole?
Et c'est pas le cas aujourd'hui, mais ça dépendra surtout de ce qui ressortira de la vérification par l'administration.
J'ai aussi une question plus globale sur la situation des aéroports français. C'est-à-dire que quand cette crise a commencé, elle est arrivée dans une situation où déjà on commençait à parler d'un certain nombre de compagnies aériennes qui décidaient de mettre la pression sur le gouvernement français, estimant que les taxes, les aéroports, que ça n'était pas optimal. Quelle est la situation aujourd'hui et est-ce que cette crise qui vient se surajouter fragilise un peu le secteur?
Bien sûr, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on passera l'été, mais que le secteur ne sortira pas indemne de cette crise énergétique qui s'annonce structurelle. Tout le secteur sortira très fragilisé de cette crise. Et nous, ce qui est à craindre, c'est qu'on subisse le contre-coup à l'automne. On pense déjà à l'après, c'est-à-dire une deuxième vague de suppression de lignes comme on l'a subi à l'automne 2025 suite au triplement de la taxe sur les billets d'avion. Je rappelle qu'on a eu pratiquement 1 million de sièges de supprimés sur nos aéroports français en raison de cette taxe. Donc clairement, là, on s'achemine vers une situation où on va subir une situation de crise où les compagnies aériennes ont été fragilisées et donc vont être amenées à faire des arbitrages assez sévères sur les aéroports français. Donc on demande au gouvernement en effet d'effacer le triplement de cette TSBA pour ne pas subir...
J'imagine que vous leur en avez parlé hier lorsque vous étiez à Bercy. Est-ce que vous avez une réponse favorable?
Alors la réponse a été dire que le gouvernement était sur la gestion de cette crise et que c'était pas le moment d'aborder ce sujet.
Oui, en gros ils vous ont dit tenez jusqu'à la fin de l'été, puis on verra après quoi.
Oui, sauf que les aéroports nous anticipons et nous demandons clairement que ce triplement de la fiscalité soit effacé compte tenu de cette crise énergétique qui s'annonce.
Vous avez une inquiétude plus globale sur le système économique qui fonctionne aussi autour à la fois des compagnies aériennes et des aéroports?
Nous, ce qu'on note, c'est que la France n'a pas retrouvé son niveau d'avant Covid. Ce qui n'est pas le cas en Espagne, au Portugal, en Italie, où ils sont à plus 15, plus 20%. Et donc, nous avons tous les atouts en France pour recoller au plomb de tête, notamment l'Espagne, l'Italie, le Portugal. Et pour cela, il faut engager une politique fiscale aérienne qui soit pragmatique et qui soit pas contre-productive pour notre secteur. Donc, nous pensons que le modèle économique, notre modèle économique est bon, mais il y a aujourd'hui une charge fiscale qui est trop lourde et qui doit être réduite pour retrouver une dynamique, comme on peut le constater.
Merci Thomas Juin d'être venu ce matin répondre à mes questions alors que vous sortiez donc de Bercy hier. Vous présidez l'Union des aéroports français, une centaine d'aéroports au total. Il est 7h48 sur RMC. Il y a Ali qui est avec nous au 32-16 qui nous appelle de la Loire. Bonjour Ali. Ali, chauffeur poids lourd, je ne sais pas si vous êtes là.
Oui, je suis là.
Vous avez encore un peu de voix?
Oui, j'ai toujours de la voix.
Ali qui a vibré hier pour le PSG alors que vous êtes supporter lyonnais, vous assumez?
Ah oui, totalement. Non, je suis pour le football français en général. Je ne suis pas chauffeur au point de souhaiter la défaite du PSG.
J'adore cette idée quand même. À un moment, effectivement, que ça dépasse. C'est quand même assez
inouï. Ouais, Ali, vous nous avez même envoyé une photo hier de vous avec un maillot du PSG.
Oui, c'est totalement assumé. Et en plus, je vais répondre à une question que Mathieu se posait hier.
Ah.
Mathieu, hier, il se posait la question de qu'est-ce qu'on mange devant un match de foot.
Oui, exactement. Est-ce qu'on mange du roussi poulet, du testi, du master ou de la pizza?
Les Marseillais mangent la victoire des Parisiens. C'est leur repas préféré en ce moment.
Ah, ça doit être ça.
Il y a Thibaut Texer et Victor Porcher qui arrivent dans pas longtemps.
Oui, Thibaut Texer et Victor Porcher ont un peu moins la banane ce matin, je vous avoue.
Non, c'est un plaisir. Apolline, si vous me permettez.
Ouais.
Je voulais juste remercier RMC et Anaïs pour le cadeau qu'ils m'ont fait dimanche matin.
Ali, vous étiez dans le studio dimanche matin. J'ai trouvé ça génial. Je précise effectivement pour ceux qui nous écoutent, désormais, un dimanche par mois, vous tous qui nous appelez au 32-16, eh ben, vous venez carrément dans le studio, autour de la table, au micro. C'est ça aussi RMC. Et c'était vous le premier, Ali. C'est génial.
C'est ça. J'étais sur mon nuage et je continue à l'être d'ailleurs.
Ben, vous savez qu'en fait, c'est vraiment vous qui nous faites vivre aussi. Non, mais c'est vrai, c'est vous qui nous faites vibrer chaque jour. C'est vous qui, en nous appelant au 32-16, alors évidemment, vous réagissez la plupart du temps à tout ce qui se joue dans l'actualité. Mais vous êtes aussi des lanceurs d'alerte sur RMC. Vous, au 32-16, qui nous appelez pour nous dire votre vie quotidienne, pour nous dire ce qui se passe du côté de chez vous. Et Ali, c'est votre fidélité, c'est vos témoignages qui font qu'RMC, c'est pas une radio comme les autres. Donc, c'est un immense plaisir et une très grande fierté. Ali, vous êtes sur la route là ce matin?
Oui, toujours. C'est toujours. Une veille de jour férié. On va vite rentrer à la maison.
Voilà. On se dit que c'est la dernière avant le retour effectivement à la maison et un long week-end. Merci Ali en tout cas d'avoir partagé avec nous ce matin. Il est 7h50 et c'est Cécile Duflo qui nous rejoint dans un instant. Bonjour Cécile.
Bonjour Apolline.
Cécile, notre voix de gauche sur RMC. Le gouvernement qui veut réformer l'agence de l'environnement, la fameuse ADEM. Ça vous met en colère? Pourquoi?
Je suis très en colère parce que cette idée de casser le thermomètre pour éviter de voir que la fièvre arrive est scandaleuse et l'État doit conserver l'ADEME et la ministre doit avoir un peu de courage une fois dans sa vie.
Vous nous le dites dans un instant, 7h51, à tout de suite.
RMC, Apolline Matin.
Et la voix de gauche dans un instant, mais d'abord le bonus Mathieu.
Avec un biopic très attendu, vous le savez, la vie de Johnny au cinéma c'est pour bientôt. Et on sait déjà que c'est Cédric Jiménez qui tiendra la caméra, le réalisateur de Bac Nord. Mais depuis hier, on connaît le casting. C'est finalement Benjamin Voisin qui a été choisi pour incarner Johnny. De premières images ont été dévoilées dans Paris Match, l'acteur en vogue que vous avez peut-être vu dans Les Légions Perdues ou dans L'Étranger, transformé en Johnny, transformé. Blouson noir, regard bleu, posture, coiffure, guitare, la ressemblance impressionne déjà les fans. On apprend aussi que Laura Smet jouera le rôle de sa propre grand-mère. La fille de Johnny jouera le rôle de la mère de Johnny, vous me suivez. Mais vous pourrez aussi jouer cette différence aux ressemblances entre de jeunes acteurs et les stars qu'ils interprètent, Sylvie Vartan, Nathalie Baye, Michel Bergier. Le tournage démarre le 1er juin, sortie prévue été 2027, le film qui retrace la vie de Johnny des débuts jusqu'au concert du Parc des Princes.
RMC, Apolline Matin,
voix de gauche,
voix de droite.
Et c'est la voix de gauche ce matin, c'est jeudi et c'est Cécile Duflo. Bonjour Cécile, vous êtes très remontée contre le projet de loi examiné aujourd'hui par le Conseil d'État. L'idée, c'est de réfléchir à la réforme de l'ADEME, l'Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Énergie. Pourquoi ça vous révolte?
Parce que c'est stupide, c'est même super stupide et en prime c'est scandaleux. En fait, l'idée de départ, c'est qu'il y a une offensive de l'extrême droite et notamment un amendement d'Éric Ciotti pour supprimer l'ADEME lors du dernier débat budgétaire et par une espèce de trouille, par même je n'ai aucune raison valable, le gouvernement s'est engagé dans cette réforme absurde et c'est un manque de courage totale de la ministre de l'écologie en plus.
Alors la ministre de l'écologie, c'est Monique Barbu. Elle explique qu'elle veut rendre plus efficace l'agence en la rapprochant des préfectures. On peut entendre l'argument quand même.
Bah, en fait, non, parce qu'elle est déjà très efficace, l'agence. C'est ça le problème. Elle est très efficace depuis longtemps. Il y a eu de nombreuses études qui ont été faites qui montrent que l'argent qu'elle reçoit, elle le redistribue en quasi-totalité, que ses coûts de gestion sont très faibles. Et surtout, c'est une agence qui prépare l'avenir. C'est une agence qui peut travailler sur le long terme. Et donc, il faut qu'elle soit dégagée des contingences politiques locales. Et là, mettre ces agents, de fait, sous la tutelle du ministère de l'Intérieur, puisque les préfets sont sous l'autorité du ministre de l'Intérieur, ça n'a pas de sens. C'est vraiment absurde. Enfin, je veux dire, il n'y a rien de rationnel. Et ça va probablement mettre totalement en danger ses actions.
Est-ce qu'il n'y a pas trop d'agences d'État quand même ?
Ah oui, alors ça c'est un espèce de mantra. On dit il y a trop d'agences, comme ça. Un peu comme un truc de religion et ça évite de réfléchir. Vraiment, ça c'est une perte totale de réflexion. D'ailleurs, l'ADEME, c'est une des plus vieilles agences. Elle existe depuis avant votre naissance et depuis même avant la mienne, Apolline. Elle a été créée sous le gouvernement de Chirac en 1974. Et depuis, il y a eu plein d'alternances et tous les gouvernements ont préservé son action, ont d'ailleurs augmenté son budget parce qu'elle est utile pour les collectivités, utile pour les particuliers et utile pour les entreprises.
La ministre, elle dit que c'est pour la préserver précisément qu'elle la réforme, cette ADEME.
Ah bah alors ça, je trouve ça quand même complètement dingue. Donc, quand vous avez l'extrême droite qui attaque toutes les agences de l'environnement, mais particulièrement l'ADEME, de dire qu'on va s'opposer en finalement devançant ses souhaits, c'est honteux. Enfin, je veux dire, ces propos de la ministre, au-delà d'un manque de courage, c'est vraiment de la lâcheté, de la médiocrité. C'est inadmissible, en fait. Aucun ministre de l'écologie, même sous Sarkozy, même sous Balladur, aurait toléré quelque chose de pareil. Nathalie Kosciusko-Morizet, elle avait une formule, elle disait, c'est un concours d'inélégance et de lâcheté. Et ce que fait le gouvernement, là, c'est un concours de lâcheté et de médiocrité. Parce que tout le monde sait qu'on a besoin d'un opérateur indépendant. Quand on aide une entreprise à améliorer son process de fabrication de ciment, par exemple, c'est utile à la transition écologique. Quand on aide à avoir un vrai plan d'isolation des bâtiments, quand l'État laisse du budget, c'est utile à la transition écologique. C'est une agence utile, des gens qui sont de très grande qualité, des super techniciens que les entreprises n'auraient pas les moyens de se payer, par ailleurs. Donc c'est vraiment, vraiment scandaleux.
Bon alors qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce que doit faire le gouvernement ?
Eh ben on retire ce projet de loi, on jette aux oubliettes cette partie du projet de loi. C'est quand même simple, il doit être présenté en Conseil des ministres la semaine prochaine, on dit que le Conseil d'État ceci, cela. Et la ministre de l'écologie, je le dis parce que ministre c'est pas rien en fait, hein. Ministre c'est pas juste aller à la télévision pour réciter ses éléments de langage devant Apolline de Malherbe. C'est avoir un peu de courage et quand on est ministre de l'écologie, on a en charge l'avenir de
Cécile,
ce pays.
Cécile, c'est rare qu'ils arrivent à juste dérouler leurs éléments de langage devant Apolline de Malherbe.
C'est vrai Apolline, du coup invitez la ministre de l'écologie, voilà. Et demandez-lui de faire preuve de courage et de s'occuper de l'avenir de notre pays. Et l'avenir de notre pays, là tout de suite, c'est sauver l'ADEME.
Surtout que vous m'en avez donné des arguments ce matin. Merci Cécile. Cécile Duflo, donc la voix de gauche sur RMC tous les mardis, les jeudis et en débat le vendredi. Vous serez en débat demain matin. Dans un instant, le journal de 8h. Il est 7h57 pour l'heure. Et vous l'entendrez donc à la une du journal, la joie dans les rues de Paris. Le PSG qualifié pour la finale de la Ligue des Champions. Nous irons en direct à Munich, juste après le journal, l'ancien joueur du PSG, consultant RMC, Jérôme Roten, sera dans ce studio. Et n'hésitez pas à venir l'appeler au 32-16. Il est 7h57. On se retrouve dans un instant. Et du côté de la météo, vous verrez, ça s'améliore.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.